Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre ce soir. Vraiment, c'est agréable de voir ce succès de foule. Merci, un gros merci au comité organisateur des Cafés historiques, composé de deux personnes, Valérie Lapointe-Gagnon de la revue Histoire engagée et Marie-Ève Ouellette du service Les Six Associés. Alors, pardon? Ben Olivier aussi, naturellement, qui est le coordonnateur scientifique principal de la revue. Donc, merci à ce comité organisateur-là des Cafés historiques. Alors, j'aurais envie de commencer par trois constats par rapport à l'énergie. Et ces trois constats-là, comme vous allez le voir, vont mener au sujet que je vais aborder durant cette soirée, ce café historique. Le premier constat, alors j'ai ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il n'y a pas le montant, oui, il y a le montant en bas, c'est pas grave, c'est loin. Le compte d'Hydro. Alors, premier constat, l'énergie, ça touche tout le monde. Je pense que tout le monde a déjà vu ça dans sa vie. Ceux et celles qui ne l'ont pas vu, ben, c'est parce que vous payez un loyer, que les tarifs d'électricité sont inclus dans le loyer. Mais si les tarifs montent, naturellement, le prix du loyer va monter l'année suivante. Autre exemple, le prix de l'essence. Alors, aujourd'hui, il vient d'augmenter. Donc, tout ça pour dire que l'énergie, ça touche tous les citoyens dans la vie de tous les jours. Deuxième constat, les enjeux énergétiques. Les enjeux énergétiques, entre autres, ceux reliés au Québec à l'électricité. Ces enjeux-là ne laissent personne indifférent. Par exemple, du moins les citoyens qui sont intéressés par l'actualité. Par exemple, est-ce qu'on pour ou contre le développement de la Romaine? Est-ce qu'on choisit de s'en aller vers la construction de centrales nucléaires ou on privilégie le développement hydroélectrique? Est-ce qu'un des parcs éoliens près de la ville de Québec, par exemple, est-ce que vous êtes pour ou contre ça? Donc, veux pas, dans l'actualité, dans les choix faits par Hydro-Québec et par le gouvernement du Québec, on est tous interpellés, un jour ou l'autre, comme citoyens, par ces enjeux énergétiques-là. Autre constat, les projets énergétiques, surtout ceux qui se rattachent à Hydro-Québec, la construction de barrages hydroélectriques, la construction de centrales nucléaires, les parcs éoliens, ces projets énergétiques-là frappent l'imaginaire populaire, frappent l'imagination de tous les citoyens. Pour différentes raisons. Premièrement, ces projets nécessitent de longues planifications qui, souvent, nécessite de profonds débats de société. Des débats à l'Assemblée nationale, des débats dans les commissions parlementaires, des débats où les groupes de pression ont leur mot à dire, des débats où même les citoyens interviennent pour dans ce processus de planification de ces enjeux énergétiques-là. Ces projets énergétiques. Ces projets nécessitent de colossaux investissements, si je peux dire, des investissements qui, souvent, touchent des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars dans le cas des complexes hydroélectriques, par exemple. Ces projets mobilisent des milliers de travailleurs sur une période de temps vraiment impressionnante, plusieurs années, voire des dizaines d'années, comme dans le cas, par exemple, de la phase 1 du projet de la baie James. Alors, ces trois constats expliquent en grande partie pourquoi il y a un lien si fort entre l'énergie et le politique. Et au Québec, entre l'électricité et le politique. D'ailleurs, ceux que je vais appeler durant cette conférence les responsables politiques, j'entends ici par les élus du gouvernement, ceux qui forment le gouvernement, non seulement la figure première d'un gouvernement qui est le premier ministre, qui représente également l'État, mais aussi les ministres, mais aussi les autres élus du parti au pouvoir, mais aussi, j'entends par responsables politiques, les élus de l'opposition. Donc, tous les élus, pour moi, forment ces responsables politiques-là. Et eux ont compris rapidement ce lien et l'intérêt qu'ils ont à entretenir ce lien entre l'électricité et le politique. Ils ont donc rapidement utilisé les enjeux énergétiques, les projets d'Hydro-Québec, entre autres, au Québec, pour rassembler les citoyens, pour donner un sens à la société, ou plusieurs sens, si on veut, et donc pour mettre en valeur certaines particularités de l'identité québécoise, ou encore certaines particularités de cette figure identitaire que tentent de projeter ou d'entretenir les responsables politiques. Donc ce soir, et ce sont également mes recherches de doctorat et de post-doctorat, je vais vous entretenir de l'histoire d'Hydro-Québec et de ses particularités identitaires qui y sont rattachées au fil des ans, qui touchent en fait à la manière dont ces responsables politiques représentent la société, se représentent le Québec ou imagine le Québec contemporain à ces responsables politiques-là, mais également le Québec de demain pour ces responsables politiques. Donc, la notion d'imaginer le Québec, de se le représenter. Six domaines, si on veut, de représentation seront abordés tout au long de la soirée. Tout d'abord, le rapport à la nature. Comment on se représente notre rapport envers cette nature, ces éléments sauvages qui nous entourent. Comment on conçoit le territoire et surtout les régions. Comment on se représente, ou quel est pour nous, quand je parle pour nous, c'est pour les responsables politiques, la modernité économique. Quelle est la modernité technologique, donc l'importance de la technologie dans cette identité québécoise-là? Comment, quels devraient être les liens qui soudent ensemble les Québécois, les citoyens? Et le sixième point, le rapport à l'autre, qui ici est plus souvent qu'autrement le rapport à l'autre autochtone. Donc voilà les six points que je vais aborder durant cette conférence, si on veut, ce café historique. Et je vais aborder trois périodes. La période du Plessis, quelles sont les significations qui sont rattachées à Hydro-Québec durant la période de Duplessis, 1944 jusqu'au début des années, jusqu'en 1960. La période de la Révolution tranquille et de ses lendemains immédiats. Ici, ça va être les années 60 et 70. Et enfin, la période débutant avec le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc, trois périodes où la signification en lien avec l'identité québécoise apportée à Hydro-Québec, à ses projets, vont donc se transformer, ne seront pas pareilles selon les différentes périodes. Avant d'entamer la première période, qui va traiter des années du Plessis, 1944 à 1960, je tiens à vous préciser, si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, n'hésitez pas à m'arrêter n'importe quand durant l'exposé. Et puis même que je vais vous allez voir, j'ai envie de placer des périodes de commentaires, questions, remarques, débats durant la présentation. Donc, mais ça ne vous empêchera pas, si vous avez des questions spontanées, des remarques, n'hésitez pas, levez votre main et j'essaierai de vous remarquer. Bon, si vous... Alors, j'en vois déjà un, ça commence bien, c'est toujours le même en plus. Oui? OK, c'est bien. Tu vois, je t'ai vu. Mais, OK, pour l'instant, je t'ai vu. Donc, la période, je vais appeler la période duplessiste. Quels sont les principaux événements marquants pour Hydro-Québec qui seront repris par les responsables politiques, par les élus, par les politiciens, qui vont donc les utiliser pour imaginer le Québec, pour montrer les principales caractéristiques que devrait avoir la société québécoise. Tout d'abord, la période s'ouvre en 1944 avec la création d'Hydro-Québec par le gouvernement libéral d'Adélard Godbout. En 1944, en fait, on nationalise la Montreal Light Heat and Power qui dessert les citoyens de l'île de Montréal. Donc, ce serait une longue histoire, mais disons que c'est dans un contexte de lutte contre les trusts de l'électricité et la Montreal Light Heat and Power a des tarifs assez exorbitants et malgré les avertissements que sert le gouvernement Godbout, les tarifs ne diminuent pas au goût des responsables politiques. Et donc, on en vient à nationaliser cette compagnie d'électricité. Donc, création d'Hydro-Québec en 1944. Hydro-Québec, à ce moment-là, est confiné à la région de Montréal. Quatre centrales, si je ne m'abuse, qui sont autour de la région de Montréal. Donc, Hydro-Québec est obligé d'acheter de l'énergie de d'autres compagnies d'électricité privée, entre autres la Shawinigan Water and Power. En 1950, le gouvernement de Duplessis décide autorise Hydro-Québec à acheter des barrages et centrales en Abitibi-Témiscamingue. Et donc, c'est la première vraie expansion d'Hydro-Québec hors Montréal. Donc, Hydro-Québec va donc gérer ses barrages en Abitibi. En 1951, c'est la centrale de Beauharnois, la phase 2, qui est inaugurée. Beauharnois, qui est une des plus puissantes centrales hydroélectriques dans le monde à ce moment-là. La phase 3 et la dernière sera complétée plus tard. Entre 1953 et 1959, c'est la construction du premier complexe hydroélectrique dans les territoires nordiques, si on peut appeler ça ainsi, par Hydro-Québec. C'est le complexe Bercimis sur la côte nord. Donc, entre 1953 et 1959, Hydro-Québec lance et construit ce complexe de deux centrales hydroélectriques. Cela amènera Hydro-Québec à construire très longue ligne à haute tension au monde de 315 kV. Une ligne qui va d'ailleurs passer de la côte nord à Montréal sur la rive nord du Saint-Laurent, mais aussi Hydro-Québec sera obligé de construire un câble sous-marin reliant la côte nord à la Gaspésie. Enfin, je terminerai ce bref historique-là des années Duplessis par la décision du gouvernement Duplessis de réserver les rivières Manicouagan et Outarde en 1956, cette décision-là, à Hydro-Québec. Et cette décision sera donc permettra en 1959, et là, tenez-le pour dit, sous le gouvernement Duplessis, on lance le projet Manicouagan-Outarde. Mais ce n'est que le début. On construit les routes, on le planifie. Mais naturellement, à la fin, lorsque l'Union nationale va perdre le pouvoir, c'est le gouvernement libéral de Jean Lesage qui va bénéficier, si on veut, de ce projet qui est déjà entamé. Mais le gros des constructions, comme vous allez le voir tout à l'heure, ce sera dans les années 60. Alors, avant de traiter de cette façon qu'ont les responsables politiques des différents gouvernements Duplessis, entre 1944 et 1960, cette façon qu'ont ces responsables-là de s'imaginer le Québec, de le représenter, j'aimerais vous donner un exemple d'un discours assez riche en symboles et en significations. Et je vais vous le faire écouter, c'est peut-être 3-4 minutes, mais assez intéressant, à mon avis. Et puis, ensuite de ça, je vous reviens sur les représentations qui sont rattachées, non seulement à ce discours-là, mais en plus général pour cette période. Alors, je ne vous dis pas c'est qui. C'est en 1951.
Excellences, Monsieur Duterger, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques, Monsieur les ministres, conseillers législatifs, Messieurs les députés, Monsieur le maire de Montréal, Monsieur le président de l'exécutif, distingués visiteurs, Mesdames et Messieurs.
C'est l'inauguration de Beauharnois.
La cérémonie d'aujourd'hui est très impressionnante à mon sens et remplie de significations profondes. Nous assistons à l'inauguration d'un nouveau développement hydroélectrique. Développement dont les bienfaits se font sentir un peu partout, particulièrement dans la province de Québec et singulièrement dans la cité de Montréal. Ce développement-là amène à l'esprit des pensées desquelles, je crois, ne sont jamais trop souvent indiquées à la population. Nous parlons d'énergie électrique. Une énergie artificielle qui produit de la lumière et qui produit de la force motrice. Il est évident que cette énergie artificielle qui produit la lumière artificielle et la force motrice indique surtout la puissance du cerveau humain et, inévitablement, la puissance incomparable du Créateur du ciel et de la terre. Il est évident, c'est un devoir impérieux et bien agréable pour les administrations publiques, lors de cérémonies comme celle d'aujourd'hui, de demander à l'autorité religieuse d'invoquer le secours et l'aide du roi du ciel et de la terre. Et c'est pour cela que je remercie particulièrement Son Excellence Monseigneur Caza d'avoir bien voulu présider à cette bénédiction. Cette bénédiction, en même temps, nous rappelle que si l'énergie électrique est une force considérable au point de vue industriel, commercial et même individuel, si c'est une puissance terrestre, elle ne vaut certainement pas l'énergie céleste et l'énergie qui provient et qui découle de l'observance des grands commandements et de l'observance des principes religieux. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous assistons à tellement de transformations, tellement de progrès matériels, qu'on dirait que l'intelligence humaine est captée par la matière et qu'elle est portée à oublier les choses supérieures à la matière et sans lesquelles la matière ne pourra pas exister. Il faut se rappeler toujours que si Beauharnois sera, lorsque les travaux seront complétés, l'unité hydroélectrique la plus considérable et la plus puissante au monde, Cela dépend de l'intelligence humaine, cela dépend de l'énergie humaine, cela dépend de la compétence humaine. L'homme est le roi de la création. Et les choses créées doivent servir à l'homme.
Bon, c'est assez, là. C'est vraiment particulier de cette époque-là. Il y a des... Moi, j'ai trouvé des photographies où on voit des évêques, ou je sais pas, des archevêques, enfin, qui se promènent dans la centrale de Beauharnois, entre autres, mais également les centrales de la Bercimis. Donc, on est en... Là, ça, c'est l'inauguration de la phase 2 de Beauharnois en 51. Bercimis, c'est plus tard, 54, 55, 56. En fait, je pense que Bercimis 1, c'est 56. Enfin, ça pour dire qu'on voit les évêques qui se promènent, donc qui bénissent la centrale. Ils sont là au premier rang, à l'avant, en tant que qu'invités d'honneur, si on veut. Bon, bref, c'est particulier de cette époque. Alors, quelles sont les particularités de l'identité québécoise qui sont mises de l'avant par les responsables politiques ici de l'Union nationale à cette époque? En lien, naturellement, avec Hydro-Québec et l'énergie électrique. Un fait frappant, particulièrement dans cet extrait audio, c'est l'importance de montrer que la divine providence, les valeurs catholiques, eh bien, ces valeurs-là servent à tisser des liens communautaires entre, à l'époque, appelons-les les Canadiens français, du Québec. Et donc, Hydro-Québec est un instrument pour le gouvernement Duplessis pour montrer ces liens communautaires-là, les liens communautaires tissés grâce aux valeurs catholiques et à la divine providence. Un autre aspect dans l'inauguration, dans le discours, par exemple, un peu plus loin, je l'ai arrêté. Dès les années 1950, Hydro-Québec est utilisé par le gouvernement Duplessis pour montrer cette fierté d'une maîtrise de la technologie. Dès les années 50, on a parfois tendance à penser que ces valeurs identitaires rattachées à la technologie pour le Québec arrivent dans les années 60. Et non, ça commence dans les années 50, je dirais à partir du milieu des années 50, un tout petit peu à Beauharnois, lorsque Duplessis va dire que c'est la centrale la plus puissante au monde à cette époque, mais surtout avec le projet Bercimis, où on est fier de montrer qu'on contrôle les éléments naturels de la nature, où on est fier de rappeler que le projet Bercimis, c'est l'occasion de développer les lignes à haute tension de 315 kilovolts. Donc, il y a une maîtrise de la technologie pour ces Canadiens français-là et la formation d'ingénieurs et de techniciens qu'Hydro-Québec va permettre. On met de l'avant la maîtrise de la technologie grâce au projet hydroélectrique et à l'action d'Hydro-Québec dans la formation d'ingénieurs et de techniciens, donc les compétences en ingénierie. Mais on les acquiert, on les maîtrise pour cette période. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis ça. La richesse du potentiel hydroélectrique du Québec est également mise de l'avant. Le gouvernement Duplessis parle, et je cite, « Le Québec, c'est la terre promise des industries. Le Québec, je cite encore, c'est la clé du développement industriel de l'heure. » C'est intéressant, la clé. Ça va être repris dans les années 60 sous le Sage. Donc, la clé du développement industriel, mais pas n'importe lequel. Et ce développement industriel-là, selon Duplessis, c'est la modernité économique. Quel est ce développement industriel-là? Quelle est cette modernité économique? Donc, c'est de favoriser l'industrialisation, souvent d'industries étrangères. Donc, l'implantation d'industries étrangères. Une industrialisation pour exploiter les matières premières. Donc, souvent, ça va mener à une industrialisation non seulement au pourtour de Montréal, mais souvent en région. là, dans les différentes régions du Québec, qui, à l'époque, forment ce que j'appelle la première couronne nordique. Donc là où il y a des ressources hydroélectriques, il y a un potentiel de ressources où on peut les concéder à des entreprises privées, ou encore où on peut dire à Hydro-Québec, va exploiter ces ressources et mets l'énergie électrique disponible pour les industries qui vont venir s'implanter dans ces régions-là. Par exemple, c'est le cas du projet Bercimis entre 1953 et 1959. Il y a donc une idée derrière cette modernité économique-là. Il y a l'idée d'un développement régional, mais un développement régional où on perçoit le territoire comme un territoire vécu, un territoire à coloniser. On est encore dans cette idée de colonisation issue du début du 20e siècle qui se poursuit ici, entre autres grâce à Hydro-Québec, où on développe de nouveaux territoires pour les ouvrir et pour aller implanter des gens là. Avec le projet Bercimis, et c'est très, très évident avec le gouvernement Duplessis et le projet Bercimis, on ouvre une nouvelle ville, une ville qu'on veut permanente, la ville de Labriville. Et là, cette ville-là, en plein cœur de, de la Côte-Nord, là, pas l'arrière-pays de la Côte-Nord, mais quand même assez éloigné du bord du fleuve Saint-Laurent, la ville de Labriville, on veut lui insuffler ces nouvelles valeurs du Québec-là. Et là, il y a une fierté de dire que c'est une ville dominée par les valeurs catholiques et le clergé catholique. Alors, j'aurais envie de m'arrêter ici concernant cette période de Duplessis-là. Naturellement, c'est ici que j'aimerais m'arrêter aussi pour voir si vous avez des questions par rapport à ça. Naturellement, j'y vais à gros portrait. Donc, si vous voulez qu'on entre dans les détails, n'hésitez pas à poser des questions, des commentaires, des remarques, des choses qui vous ont surprises, peu importe. Je propose qu'ici, on fasse une petite pause et qu'on regarde où la discussion peut aller. Personne? Personne? Vas-y, Jules, je t'ai vu! Duplessis. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, excuse-moi. Maurice Duplessis, à l'inauguration de Beauharnois. Est-ce qu'il y en a qui pensaient que c'était, je ne sais pas, autre Duplessis qui a... D'ailleurs, j'en profite ici. Vous allez voir, j'ai deux autres extraits vidéo qui viennent plus tard. Mais remarquez, c'est très intéressant, hein, la façon dont le parler a changé avec les époques aussi. Duplessis, hein, on peut dire que c'était un parler très canadien-français de l'époque, mais on voit dès la fin des années 50, les politiciens des années 60, c'est un parler beaucoup plus français. Alors, j'ai pas d'extrait de l'ossage, j'aurais pu en sortir, là, mais ils sont quand même assez difficiles à trouver, ceux qui touchent à Hydro-Québec, qui sont vraiment pertinents pour mon propos. Mais j'ai un extrait tout à l'heure de René Lévesque, et vous allez voir, c'est une autre façon d'aborder les discours. Un Duplessis très posé, c'est lent, on a l'impression qu'on va s'endormir, mais il faut le voir plus Duplessis que l'entendre. Est-ce qu'on passe le micro, madame, mademoiselle?
Okay. Ben, en fait, tu parles de colonisation, tout ça, mais j'étais curieux de savoir, dans les discours, est-ce qu'on parle d'un territoire sauvage qui paraît mystérieux, ou au contraire, on dit on va s'installer là-bas, puis on va civiliser l'endroit?
En lien avec Hydro-Québec, dès le milieu des années 50, et le projet Bercimis, c'est vraiment un territoire sauvage que l'on conquiert. On dompte les forces de la nature. On déplace les montagnes, on harnache les rivières, puis c'est le colon qui réussit non seulement à... qui réussit à dominer la nature. Oui, et on l'ignore totalement dans les années 50. Dans les années 60 aussi, d'ailleurs. Ben, j'ai pas le mot sauvage, là, mais disons qu'on ignore. Oh. Oui, madame. Très intéressant. C'est vrai qu'il y a un changement là. Et on a l'impression que Duplessis mettait l'accent uniquement sur l'aspect des valeurs catholiques, là, de par l'extrait que j'ai choisi, là. Mais on va voir plus que les années 50 avancent, là, plus que il y a d'autres choses qui embarquent, dont aussi le rapport à la technologie, à cette fierté de la maîtriser, puis tout ça. Oui. Tente de concilier deux mondes, possiblement, avec son... Je m'embarquerai pas là-dedans. On a ici une belle vision de la période du Plessis. Électoralement parlant? OK. J'attrape d'ailleurs la balle au bon. J'ai vu question et commentaire à l'arrière, mais monsieur, il parle ici d'électrification rurale. Je ne l'ai pas abordé dans la bref synthèse que j'ai fait, mais disons que en 44, quand Godbout crée Hydro-Québec, décide que c'est Hydro-Québec qui va être au devant de l'électrification rurale. Et accorde 10 millions de dollars à l'époque à Hydro-Québec pour entreprendre des travaux d'électrification rurale, soit seul ou soit avec l'aide d'autres compagnies privées. Mais lorsque Duplessis prend le pouvoir en 1944 et rapidement en 1945, lui, il n'est pas d'accord avec ça. avec l'idée qu'Hydro-Québec, que ce soit Hydro-Québec qui soit au devant de l'électrification rurale, il va donc créer l'Office d'électrification rurale. Et Hydro-Québec va perdre cet objectif, ce but de faire l'électrification rurale. Mais l'Office de l'électrification rurale va s'avérer quand même une très belle chose, une très belle réussite, puisque au début des années 60, j'ai lu ça dernièrement, mais je crois qu'on parle de 90 ou 95% de tout le milieu rural est électrifié au Québec. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est ça. C'est, donc, en 45, on ne sait plus où Hydro-Québec s'en va. Et lorsque, tout à l'heure, je vous ai dit, à partir de 1950, Duplessis va dire à Hydro-Québec, vous pouvez acheter les barrages en Abitibi. Là, Hydro-Québec sort de Montréal et là, on commence à voir que Duplessis décide d'utiliser Hydro-Québec, de l'instrumentaliser et donc de véhiculer certaines valeurs, certaines images du Québec grâce à Hydro-Québec. Et là, c'est lancé après. Commentaire, question? À Montréal, on a vu, ça a été quand même. Non, à Montréal, ça a été significatif. Oui, nettement. Je pourrais pas donner les chiffres, là, mais ça a été significatif. Et d'ailleurs, encore en 62, on l'abordera tout à l'heure, en 62, 63, pour le reste des régions, lorsqu'on nationalise l'électricité, encore une fois, ce sera également très significatif. L'autre question. La population, naturellement, la population de Montréal, il y avait beaucoup de groupes qui préconisaient l'étatisation de la Montreal Light, Heat and Power. Il y en a même qui proposaient une nationalisation beaucoup plus large de l'électricité. Et ça, dès les années 30. 29-30, avec le docteur Philippe Hamel, par exemple, un résident très connu, une figure de proue de la ville de Québec, dans la lutte contre les trusts, non seulement les trusts de l'électricité, mais d'autres trusts. On est en pleine crise économique dans les années 30. Donc, et plus ça va aller. D'ailleurs, Duplessis, lorsqu'il prend le pouvoir en 1936, avec l'Action libérale nationale, l'Action libérale nationale avait comme objectif de nationaliser ou d'étatiser, en tout cas, certains pans de l'industrie hydroélectrique. Et ce sera pas fait, d'ailleurs, Duplessis rapidement met ça de côté. Et en 39, c'est une promesse de Godbout de le faire. Donc, c'est des promesses, on en parle, c'est dans l'air. Quand c'est une promesse électorale, c'est que ça veut dire qu'il y a un bassin de gens là, qui le souhaitent. Parce que bon, dans une campagne électorale, là, on fait pas on dit pas qu'on va on va faire des politiques impopulaires, là, généralement, en tout cas. Mais j'aurais envie. Si vous avez d'autres questions, commentaires, de les garder pour la fin et de tout de suite passer à ma deuxième partie. Les années de la Révolution tranquille et de ses lendemains immédiats, les années 60 et 70. Les événements marquants qui seront donc utilisés, réutilisés par les responsables politiques, par les dirigeants des gouvernements, Lesage. J'ai comme un blanc. Lesage, Johnson, Bertrand, Bourassa, Lévesque. Il y a une continuité assez évidente durant toute cette période par rapport à Hydro-Québec. Avant les événements marquants, donc rattachés, d'abord la nationalisation de l'énergie électrique en 1962-1963, l'élection de 62, où Lesage et Lévesque, le gouvernement libéral considère que c'est une élection référendaire au sujet de la nationalisation. On va donc gagner cette élection. On va donc nationaliser l'électricité. Mais attention ici, ça, j'ouvre une parenthèse. On nationalise à peu près 75% de la production de l'énergie électrique à l'époque. Le quart qui reste, on la nationalise pas puisqu'elle appartient à des compagnies privés qui agissent dans le domaine des ressources naturelles, par exemple, qui ont des barrages à eux pour produire leurs propres trucs. Et donc, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les compagnies, certaines papetières, notamment au lac Saint-Jean ou encore à Alcan, ont des barrages hydroélectriques et vendent parfois les surplus d'électricité de ces barrages-là à Hydro-Québec, au réseau. Comment ne pas passer sous silence? Les années 60, c'est les années de la manique. Naturellement, le complexe Manicouagan-Outarde, qui commence, on le sait, à peu près en 59, mais dès le début des années 60, là, ça prend forme. Là, la construction des barrages s'active de plus en plus. Et donc, Manic 5, le barrage qui a frappé le plus l'imaginaire des citoyens dans les années 60, mais probablement le barrage le plus connu encore aujourd'hui, celui qu'on voit le plus, celui qu'on a l'image en tête. Là, on m'a refusé. Je ne pouvais pas amener là, des PowerPoint ici pour vous montrer ça. Là. Mais bon, je ne sais pas si tout le monde a l'image de Manic 5, barrage en béton, d'une hauteur de 214 mètres. Alors, c'est la hauteur de l'édifice de Ville-Marie à Montréal, en son milieu, là. On s'entend, donc, en béton avec des arches, c'est également très, très beau, esthétique à l'œil. Et donc, le complexe Manic 5 est le plus connu des barrages, et la centrale aussi. Le complexe se termine, la construction se termine en 1978, donc s'échelonne sur plusieurs années. Si on part à 59 à 78, faites le calcul, ça ne me tente pas. Construction associée à ce barrage-là, des premières lignes à haute tension à 735 kV. Des lignes où là, Hydro-Québec, une fois de plus, se démarque en matière de transport de l'énergie à haute tension. Construction de l'Institut de recherche en électricité du Québec qui débute en 1967. Un institut qui va regrouper, qui va, est-ce que je pourrais dire, siphonner plein de chercheurs, surtout qui travaillent, qui font des recherches dans le domaine du transport de l'énergie. C'est super important, ça, pour Hydro-Québec et pour le Québec en général. D'ailleurs, les responsables politiques reviennent constamment là-dessus, sur cet institut de recherche en énergie électrique. Développement de l'énergie nucléaire. Dès 1965, c'est clair qu'on s'en va vers le nucléaire. On lance la planification, la construction de la centrale Gentilly 1. Ça se termine, tout ça, en 71. Là, la centrale commence à produire de l'énergie. Ça ne dure pas très longtemps. Finalement, c'est un flop total. Construction de Gentilly 2 entre 1973 et 1983. Gentilly 2, centrale qui est toujours active de nos jours. C'est la seule centrale nucléaire au Québec. Mais tout ça pour dire que dans ces années-là, Hydro-Québec se lance vers le nucléaire. Et enfin et surtout, lancement et construction du complexe hydroélectrique de la baie-James, dont la centrale la plus importante, la plus puissante du Québec, LG2, la centrale qui aujourd'hui porte le nom de Robert Bourassa, 137 mètres sous terre, on rentre en autobus pour aller visiter ça, on descend pendant 137 mètres. C'est vraiment la centrale, c'est vraiment la centrale la plus puissante du Québec et c'est une des plus puissantes au monde. Du Québec, je dis bien, là, Churchill Falls n'est pas au Québec jusqu'à maintenant. Alors, avant de parler, t'effaceras ce bout-là peut-être, non? Avant d'aborder les particularités maintenant de l'identité québécoise mise de l'avant par les responsables politiques dans ces années-là, en lien avec Hydro-Québec, j'aimerais vous faire écouter un discours. Le discours d'inauguration de la centrale LG2. Et j'en profite ici pour... Non, je vais la faire tout à l'heure. Donc, le discours d'inauguration de la centrale LG2 en 1979, par René Lévesque.
«
Ça fait pas partie du discours.
Chers amis d'ici, à LG2, de partout au Québec et d'ailleurs dans le monde, devant une entreprise aussi colossale et aussi essentielle à nos besoins. Le premier devoir qui saute aux yeux, qui est à la fois une très grande émotion et un très grand plaisir, c'est de rendre le plus vibrant des hommages à tous les travailleurs, à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont contribué à l'édifier.
Il est devant les travailleurs de la Bédjane. C'est pour ça que ça applaudit autant que ça.
Les efforts qu'ils y ont consacrés quelquefois, hélas, au péril de leur vie, à cause des difficultés climatiques et de l'ampleur du chantier, et malgré toutes les précautions, ces efforts ont aujourd'hui ces résultats qui vont améliorer la condition autant des générations futures, aussi loin qu'on peut voir dans l'avenir, que des contemporains qui vivent avec nous aujourd'hui.
Ah, excusez. Non.
Aujourd'hui, ces résultats qui vont améliorer la condition autant des générations futures, aussi loin qu'on peut voir dans l'avenir, que des contemporains qui vivent avec nous aujourd'hui. Ces pionniers, dont beaucoup sont ici dans la salle, je devrais dire ces titans, ont installé ici, au nord du nord, à partir d'une géographie prodigieuse, des barrages, des centrales, de véritables pyramides qui modifient profondément le sort de communautés humaines jusqu'à des centaines de kilomètres de cette source gigantesque. Ces bâtisseurs ont droit à toute notre admiration et plus encore à toute la reconnaissance du Québec. Il est bon de constater aussi aujourd'hui, qu'on a fait une place à la musique, au chant, à la culture vivante pour saluer et épouser le triomphe des bâtisseurs. Ainsi, ce gigantisme nécessaire, mais qui doit nécessairement aussi être humanisé, être ramené un peu à la mesure de l'homme, on est heureux de savoir accompagner et célébrer par les artistes qui ont préparé le grand spectacle auquel nous sommes invités et que je tiens à remercier particulièrement au nom de tout le monde ici. C'est dans le même esprit que nous avons eu tout à l'heure, M. Bertrand Guérette et moi, le plaisir de dévoiler la magnifique sculpture d'un ancien travailleur de LG2, M. Jean-Marc Parizet. Cette sculpture sera là désormais dans la centrale, comme un hommage permanent à tous ceux qui ont modelé ces expressions géantes de la technique et de la science et donné une nouvelle et puissante baguette magique à cette fée véritable qu'est pour le Québec l'électricité. Une fée dont l'existence, d'autre part, est plutôt capricieuse puisque, vous le savez tous...
Je vais arrêter ici. Chargé de symboles, pyramide, fée électricité, la technologie qui est mise à l'avant, les travailleurs. Donc, je vais revenir sur ces différents éléments-là en vous parlant des particularités de l'identité québécoise mise de l'avant par les différents gouvernements, les responsables politiques. Dans les années 60 et 70, en lien avec Hydro-Québec. C'est quand même relativement connu. Hydro-Québec, la nationalisation de l'électricité en 1962, s'est perçue, cette nationalisation-là, comme la clé de l'émancipation économique de ces Canadiens français du Québec qui deviennent progressivement, au fil des années 60, des Québécois. Je ne m'attarderai pas plus longtemps, je le mentionne là-dessus, c'est quand même assez connu, on en entend souvent parler de ça. Cette énergie électrique nationalisée, produite en très grande quantité, non seulement grâce à l'entrée en fonction des différents barrages du complexe Manicouagan-Outarde, mais également avec l'entrée en fonction des barrages à la baie James. Cette énergie électrique, on ne parle plus seulement du potentiel comme dans les années 50 avec Duplessis, mais on parle de cette énergie disponible et de cette force énergétique qu'est devenu le Québec, une force énergétique au cœur de la modernité économique du Québec, qui désormais passe par une industrialisation, mais pas n'importe laquelle, par l'implantation d'industries, donc, d'industries autochtones, dans le sens des industries québécoises, francophones, canadiennes, françaises ou canadiennes, anglaises, mais des industries implantées, dirigées au Québec. Et par la création ou la formation ou l'émergence d'une industrie de l'électricité qui produit des services ou surtout du matériel électrique pour Hydro-Québec. Et c'est pour ça que dès les années 60, avec quand le gouvernement Lesage, même le gouvernement Johnson, Bourassa, vont mettre l'emphase là-dessus sur cette création d'industries autochtones, d'industries locales du Québec et d'industries électriques, c'est une des raisons qui explique pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, c'est si important pour le Québec de poursuivre dans le domaine de l'énergie électrique, de la construction de complexes hydroélectriques. Hydro-Québec est toujours perçu comme un moteur de cette industrialisation-là. Et lorsque, là je déborde la période un peu, mais les années 80, le début des années 80, il y a une chute dans la demande de l'électricité, et Hydro-Québec met un frein à son programme de construction. Et là, pour les élus, surtout ceux du gouvernement Lévesque à l'époque, c'est une catastrophe et on fait pression sur Hydro-Québec pour que les projets continuent parce qu'on a peur justement que cette industrie québécoise de l'électricité, incluant toutes les compagnies qui fournissent du matériel pour Hydro-Québec, eh bien, ferment leurs portes parce qu'il n'y aurait plus de projets. Et par la suite, ça reprend et ça n'a jamais vraiment arrêté depuis, comme vous allez voir lorsque je vais parler de l'autre période tout à l'heure. Le territoire, les nouveaux territoires qu'on ouvre, l'arrière-pays de la Côte-Nord, avec le projet Manicouagan-Outarde, où on monte là, vraiment jusqu'en haut, on construit des barrages très, très loin dans l'arrière-pays. La baie James, ce nouveau territoire qu'on ouvre, ce sont des territoires beaucoup plus instrumentalisés que vécus, dans le sens où ils sont importants pour l'État, pour les besoins des Québécois du Sud. Donc, ce sont des territoires que l'on conquiert pour aller chercher les ressources, ici, les ressources hydroélectriques, et on ramène ça pour les besoins des différentes communautés du Sud, non seulement celles au pourtour du Saint-Laurent, comme la métropole ou la capitale, ou entre les deux, mais également les autres régions du Québec qui ont été peuplées et développées avant, et qui sont toujours en développement, là, mais des régions qui ont été ouvertes antérieurement, comme l'Abitibi-Témiscamingue, comme la partie de la Côte-Nord qui est plus près du fleuve Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc., etc. Très important, Lévesque en parle un peu dans son discours, la domination de l'homme sur la nature, la domination du Québécois sur la nature. Dans les années 60, c'est encore beaucoup plus évident que dans les années 50. Manic, entre autres, est utilisé comme un symbole par les responsables politiques pour montrer cette domination-là de l'homme. On contrôle tous les éléments naturels. Naturellement, dans les années 1970, même si on poursuit, on le voit un peu dans le discours de l'évêque, avec cette idée-là, avec cette représentation-là d'un Québec qui contrôle son territoire naturel, qui harnache les ressources hydroélectriques. Dans les années 70, avec le projet de la baie James, entre autres, il y a des mouvements de contestation qui forcent les responsables politiques à se montrer plus sensibles à la protection de l'environnement. Et donc, on le voit pas, on l'entend pas dans le discours de l'évêque, mais on va se montrer sensible, on va utiliser Hydro-Québec à partir des années 70 pour montrer que non seulement on contrôle la nature, mais on la respecte aussi. Donc, on a des projets d'atténuation pour les barrages, d'atténuation. On limite, si on veut, les dégâts environnementaux causés. Et donc, c'est la genèse de cette représentation d'un Québec qui respecte l'environnement malgré le fait qu'on construit des complexes hydroélectriques qui bouleversent l'environnement. Je vais terminer par la représentation du lieu commun pour rassembler les nouveaux Québécois. Eh bien, il y en a deux. Ces deux lieux communs, là, dans les années 60 et 70, avec Hydro-Québec, c'est la promotion du fait français, qui est encore plus importante dans les années 60 et 70, la fierté d'une entreprise qui agit dans le domaine de l'énergie, qui agit dans le domaine de l'économie, une entreprise qui est contrôlée par des francophones. On est capable de planifier, on est capable de construire, on est capable de gérer de l'argent, de la grosse argent. Et ça, c'est une source de fierté, c'est une source d'égalité par rapport à l'autre anglophone. Mais également un autre lieu commun qui est utilisé en lien avec Hydro-Québec pour souder les liens de ces Québécois, de ces nouveaux Québécois qui se disent Québécois, si on veut, c'est le progrès social associé aux grands ouvrages hydroélectriques. Progrès social, notamment, ici, je parle de la baie James. Dans les années, fin des années 60, dans les années 70, il y a une jeunesse turbulente au Québec. Ça bouge. Ça critique, ça conteste. Le taux de chômage s'élève dangereusement, si je peux dire, à la fin des années 60, au début des années 70. Un Robert Bourassa est pris avec une patate chaude par rapport à l'économie, se doit d'imposer un certain coup de barre. Et il va utiliser Hydro-Québec pour le faire. Il va utiliser Hydro-Québec pour canaliser, en quelque sorte, c'est ce qu'il veut faire, les énergies de cette jeunesse contestataire-là pour l'amener à ouvrir un nouveau pays, qui est la baie James. Robert Bourassa parle de la création de 100 000 emplois, mais dans ses discours, ces 100 000 emplois-là, c'est pour les jeunes, entre autres, en grande partie, qu'il veut créer ces 100 000 emplois. Figure, soit dit en passant, qui est constamment repris depuis cette époque. Parfois, on se promène sur les autoroutes et on voit une pancarte là, du Québec écrit en bas là, 100 000 emplois, là, briller parmi les meilleurs. Là. Donc, c'est repris constamment, mais c'est en partie rattaché grâce au développement hydroélectrique. Et donc, Bourassa, c'est 100 000 emplois et la baie James était la pierre angulaire de cette création des 100 000 emplois. Donc, canaliser l'énergie de cette jeunesse-là, de ce peuple qui semble un peu se chercher dans le début des années 70, pour l'amener à conquérir, à exploiter un nouveau territoire. Je termine ici. J'ai envie d'avoir la période de questions sur les années 70. Questions, commentaires, remarques, gênez-vous pas, on est là pour ça. Je n'ai aucune espèce d'idée. Non, en fait, Je... J'aurais envie de te dire que, bon, premièrement, souvent, les par rapport à l'électricité, en tout cas, à l'hydroélectricité, tout ça, ben, c'est de compétences plus provinciales. Donc, le discours d'un contrôle de la nature par rapport à l'énergie hydroélectrique, entre autres, au fédéral, je serais curieux de voir. Je serais surpris si c'est aussi clair, aussi imposant que ça. Par contre, pour d'autres aspects, la volonté de montrer un Canada qui contrôle la nature, qui contrôle son art, parce que l'aspect nordique, hein, parce que souvent l'aspect de conquête de la nature, de domination, ça a également un lien pour le Canada et pour le Québec avec le Nord. Donc, et ça pour le Canada également, la nordicité qui revient constamment. Mais je ne saurais pas dire à quelle époque. Si ce discours-là existe, il est... pour le Québec, je crois que dans les années 60 et 70, c'est remarquablement bien repris d'une façon très, très forte. Il y aurait peut-être une petite spécificité québécoise ici, mais il faudrait voir jusqu'à quel point. Parce que je suis persuadé également qu'elle doit exister aussi au Canada. Et comment? Et elle existe dans d'autres provinces. Le Manitoba, qui... construit de grands barrages également dans le nord de sa province. Il y a également ce lien-là de rapport avec la nature aussi. Mais au Québec, c'est une composante identitaire du Québec, mais qui peut être également une composante identitaire de d'autres, des Manitobains ou encore d'autres. C'est tout ça dans son ensemble. Et ça m'amène à parler, au Québec, René Lévesque a parlé de pyramide. Johnson parlait de forteresse, de cathédrale. Et ça, je serais vraiment curieux de voir si c'est repris ailleurs. Je ne sais pas. Mais on voit là des images fortes qui captent l'imagination des citoyens et qui regroupent dans ce symbole de pyramide plusieurs composantes identitaires, si on veut, particularités de l'identité. Non seulement la construction, la domination de l'homme sur la nature, mais également la domination de la technologie, puis tout ça. Bref, c'est un long détour pour arriver à dire, je sais pas. Jules, encore une fois, puis j'ai Luc aussi. Naturellement, ça permet de frapper l'imagination des citoyens d'une façon encore plus forte, en faisant référence. D'ailleurs, il y a un document promotionnel d'Hydro-Québec qui parle du dieu énergie. Après, on parle de cathédrale. On parle, il y a une photo, une photographie de, je pense que c'est Manic II. On dit que le temple se dessine, une photo de la construction de Manic II. On parle de la cathédrale de Manic V. Donc, tu sais, ce sont des liens, oui, avec le rapport à la religion et au sacré. Mais je pense que oui, il y a vraiment dans le vide créé, les responsables politiques jugent que c'est important pour frapper l'imaginaire encore plus de mentionner justement ces allusions-là. Mais ça permet de rattacher de façon de donner un pouvoir symbolique encore plus grand lorsqu'on embarque le sacré avec les images de cathédrales. Vous avez des cathédrales qui restent là pour des siècles, les pyramides qui sont encore là aujourd'hui, 3000 ans plus tard. Donc, mais je, Ben, il y avait Luc, à moins que ce soit sur la poursuite de cette réflexion. Vas-y, Mélissa. Et souvent, les caractéristiques d'un peuple se retrouvent dans ce genre d'édifice-là, qui ont souvent un lien avec le sacré, parce que ça permet de... Donc oui, c'est ce qu'on essaye de faire avec les barrages hydroélectriques. Au niveau des tarifs ou au niveau d'intégrer le... Encore aujourd'hui, dans les années 90, il y a des gens qui critiquaient encore le fait que la nationalisation a empêché le développement régional de la Mauricie. C'est oui. Moi, je te dirais, j'aurais envie de te dire qu'il n'y a pas grand-chose. C'est sûr qu'Hydro-Québec a lancé ces espèces de politiques du patrimoine, si on veut. C'est-à-dire qu'on met en valeur le patrimoine énergétique de la Mauricie. Est-ce que c'est pour essayer d'abaisser les tensions? Je ne sais pas. Mais j'ai retrouvé dans les débats de l'Assemblée nationale un député de la région de la Mauricie qui, lui, au début des années 70, quand on se demande encore est-ce qu'on va vers la baie James et tout ça, lui voudrait, parce qu'Hydro-Québec aurait eu supposément dans ses cartons le projet d'améliorer et même de construire de nouvelles centrales sur le Saint-Maurice. Et rapidement, le gouvernement Bourassa et même Hydro-Québec reconnaît que c'est beaucoup mieux d'aller vers la baie James. C'est un projet secondaire, le Saint-Maurice. Puis finalement, je pense que ça n'a jamais été fait. Donc, j'aurais envie de te dire que on laisse faire. Quoique Hydro-Québec a quand même tenté de décentraliser son administration. Et donc, Hydro-Québec a des bureaux aussi en Mauricie. Donc, c'est pour garder une certaine présence, mais a des bureaux un peu partout aussi. Mais j'aurais envie de te dire non. Maxime, là, puis après, madame, oui. Au début des années 60, remarquez que j'ai coupé un bout du discours de l'évêque pour l'inauguration de LG2, où il fait référence à cette importance pour le Québec de contrôler sa propre énergie et à quel point ça, c'est important dans l'optique d'un Québec souverain. On est en 79 pour l'inauguration de LG2. Le référendum s'en vient. Mais en 62... En fait, j'ai perdu ta question. C'est que probablement que l'évêque, lui, va récupérer ça, le Parti québécois va récupérer ça, mais que la nationalisation, c'est sûr que ça a pu influencer par après, plus tard, lorsque vient le moment d'un futur référendum, de montrer aux gens, mais regardez, on est capable de contrôler notre propre énergie, de produire de l'énergie québécoise. Et mais c'est ça, c'est pas avant l'entrée en la matière du Parti québécois, puis même qu'un référendum se dessine à l'horizon. Sinon, je pourrais pas dire. C'est sûr que ça fait partie, du moins, de la promotion d'un nationaliste québécois. Un nationaliste qui n'est pas nécessairement indépendantiste. Faut la nuance est ici. Moi, je pense qu'il serait... Ben, c'est sûr que c'est fait du capital symbolique, mais remarque que l'évêque, peu importe où il aurait été, je pense qu'il se serait fait du capital symbolique. Mais oui, il s'est fait un certain capital symbolique, mais ça lui a pas permis, en créant le Parti québécois en 68, ça lui a pas permis de prendre le pouvoir en 70. Là. Ça l'a pris un Robert Bourassa, qu'on a jugé usé après deux mandats, un parti libéral qu'on a jugé usé pour qu'il arrive au pouvoir. Puis en 76, c'est quand même une certaine surprise dans le sens où on l'avait pas vu venir quelques mois avant la campagne. On voyait un certain vent là, de changement, mais de cette ampleur-là. Donc, je prendrai peut-être une dernière question. En fait, après, j'ai la troisième et dernière partie. Moderne, dans le sens où on l'entend dans les années 70, entre autres. Mais en ce sens-là, je ne crois pas que le Québec soit particulier par rapport aux autres sociétés, aux États-Unis, par exemple, où c'est un peu la même chose, mais pas dans le domaine électrique, dans le domaine spatial. D'ailleurs, les responsables politiques vont souvent comparer les barrages hydroélectriques, entre autres Manic 5. Daniel Johnson le fait dans un excellent discours, avec la conquête de l'espace aux États-Unis. Donc, on fait le parallèle et également. J'en profite, j'attrape la balle au bon une fois de plus. Faut dire aussi que l'évêque met l'accent en 79 sur les bâtisseurs, sur les travailleurs. Je pense qu'il y a une raison également à ça, je ne l'ai pas dit, j'en profite là pour le dire avant de passer à ma troisième partie. Au début des années 70, lorsque Bourassa lance l'abbé James, le Parti québécois est totalement contre. Et pas totalement contre la façon nécessairement d'instrumentaliser Hydro-Québec, mais le Parti québécois veut se diriger vers le nucléaire. Et pour lui, la modernité du Québec doit passer aussi par la création d'une industrie nucléaire. Il y a même un projet, Hydro-Québec avait également ce projet-là vers le milieu des années 70, d'avoir 18 centrales nucléaires le long du Saint-Laurent pour répondre à la demande en électricité dans les années 80. Mais Bourassa, lui, a fait le choix de l'hydroélectricité, et ce choix-là, fait au début des années 70, bien, il n'a jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'évêque, en 79, c'est lui qui inaugure la centrale LG2, lui qui pourtant, jusqu'en 1975, critique abondamment le projet de la baie James, le dépassement des coûts, revient sur le nucléaire. Donc, et en 1977, le gouvernement Lévesque va mettre, va rapidement reconnaître que la baie James, finalement, c'est un bon choix, que le nucléaire, c'est plus cher qu'on pensait, il y a des problèmes qui sont rattachés au nucléaire, et donc, le nucléaire, ça va mener ça au moratoire sur l'énergie nucléaire, j'ai oublié la date, je crois, 79-80, et donc, par la suite, il n'y aura plus jamais de centrale nucléaire au Québec, malgré le fait que Hydro-Québec avait dans ses cartons, à la fin des années 70, la construction d'une troisième centrale, Gentilly 3. Donc, c'est pour ça aussi que Lévesque, comment, il a dû se poser la question, puis avec les gens autour de lui qui écrivent le discours, comment en faire pour... Donc, il a décidé de mettre l'accent sur les travailleurs pour s'en sortir. Alors, les années 1900, au début des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, les événements marquants pour la société d'État, pour Hydro-Québec, je l'ai dit tout à l'heure, effondrement de la demande en électricité au début des années 1980, et ça, c'est catastrophique pour le gouvernement Lévesque. C'est-à-dire que ça veut dire que le programme de construction est mis sur la sellette, mis sur la glace. Donc, dans un contexte de crise économique au début des années 80, comment on va faire pour créer le plus d'emplois possible? Alors ça, c'est vraiment un casse-tête pour le gouvernement Lévesque. Mais, rapidement, à partir du milieu des années 80, même à partir de 1986-87, on relance les projets hydroélectriques. La phase 2 du projet de la baie James, du projet La Grande, est lancée, avec la construction de La Grande 1, puis d'autres centrales plus en amont de la rivière La Grande. En 1989, Robert Bourassa annonce le projet Grande Baleine au nord de la rivière La Grande, donc encore plus au nord de la baie James. Projet qui sera abandonné en 1994 en raison des contestations énormes de groupes écologistes, mais aussi et surtout des groupes autochtones, notamment les Cris de la baie James. Ça va mettre un petit frein au projet de développement hydroélectrique, mais il sera repris dans les années, au début des années 2000, avec le projet East Main et East Main Sarcelles Dérivation de la Rupert. C'est un projet qui est, le nom est super long. Donc, on continue à développer la baie James au début des années 2000, notamment à la suite de la signature de la paix des braves avec les Cris de la baie James qui permet un nouveau développement à la baie James. Je poursuis avec le projet de la Romaine, lancé officiellement. La construction a débuté à partir de 2009. Le projet central au gaz naturel, le projet Suroît, dans les cartons, est défendu par le Parti québécois dès 2001-2002. Repris par le gouvernement Charest en 2003 et abandonné par la suite en raison notamment des groupes de pression, ceux qui ont contesté. Et enfin, je vais terminer pour ce bref historique-là par le virage éolien. Le virage éolien, lorsque le gouvernement Charest décide en 2004 d'abandonner le projet Suroît, il y avait déjà eu un lancement d'offres pour 1000 MW d'énergie éolienne un an auparavant. Mais avec l'abandon du projet Suroît et la nécessité de continuer à développer des projets pour produire de l'électricité parce qu'on veut répondre à la demande, eh bien, le gouvernement Charest va confirmer ce virage éolien-là en 2005 avec un nouvel appel d'offres de 2000 MW de plus. Et dans les années, je crois, 2009-2010, parce qu'il y a eu dernièrement un nouvel appel d'offres. Donc, c'est la confirmation d'un virage éolien. Hydro-Québec n'a pas apparu là, paf, en 2003 dans l'énergie éolienne, même si en 2003, ce sont des appels d'offres pour que ce soit des compagnies privées qui produisent des parcs éoliens et qui vendent l'électricité à Hydro-Québec. Mais Hydro-Québec s'était lancé dans l'éolien dès le milieu des années 1970 en ayant, entre autres, des éoliennes expérimentales, en ayant un parc éolien à Matane par la suite. Et donc, ça confirme, dans les années 2003 à 2005, ce virage éolien-là. Les particularités de l'identité québécoise qui sont donc véhiculées durant cette période, il y a des transformations, il faut le reconnaître. La modernité économique n'est plus, à partir du début des années 80, de simplement, grâce à Hydro-Québec ici, n'est plus de simplement créer des industries autochtones, des industries québécoises. Ici, on est dans le contexte au début des années 80 de crise économique, de remise en question du rôle de l'État, un contexte de néolibéralisme économique. Donc, la modernité économique pour les différents gouvernements qui vont se succéder, et ça, ça commence avec le gouvernement Lévesque, beaucoup le gouvernement Bourassa et par la suite, c'est on met l'accent sur la rentabilité. On met l'accent sur la productivité. Et ça, c'est encore aujourd'hui. Le Québec doit être rentable. Le Québec doit être productif. Et Hydro-Québec sert de figure de proue dans les années 80, dans les années 90, pour montrer cette rentabilité-là. Et une des raisons pour le faire, pas une des raisons, mais une des manières de le faire, c'est de se tourner vers l'exportation d'énergie électrique. De toute façon, avec la chute de la demande, on a d'énormes surplus, mais ça tombe bien. Si on les vend, on presse le citron, Hydro-Québec fait des profits. Et toute la société québécoise s'enrichit. Là, je parle, c'est le discours des responsables politiques, on s'entend. Dans les années 80, c'est important de montrer un Québec qui respecte l'environnement. Encore plus dans les années 90, à la suite de l'échec du projet Grande Baleine, qui visiblement, là, ici, le discours, les images n'ont pas passé. Mais par la suite, les responsables politiques, les responsables gouvernementaux reviennent avec cette idée de montrer un Québec qui respecte l'environnement avec le développement durable, entre autres. Un Québec qui lutte contre les pluies acides, ça c'est dans les années 80, et donc, on fait des barrages hydroélectriques parce que aux États-Unis, ils vont pouvoir fermer des centrales au gaz, des centrales surtout au charbon, qui créent les pluies acides. Dans les années 90, le même argument, la même image revient, fin des années 90, même encore 2000, mais cette fois-ci dans le contexte de lutte contre les gaz à effet de serre et de signature du protocole de Kyoto et des changements climatiques. Donc, Hydro-Québec est un instrument pour montrer que le Québec est un Québec vert, un Québec qui produit peu de gaz à effet de serre par rapport à d'autres communautés, à d'autres sociétés, dont les États-Unis, entre autres. Souvent, c'est les États-Unis. Donc, les valeurs de développement durable sont très utiles aussi pour les responsables politiques, en utilisant Hydro-Québec, pour s'entendre avec, pour montrer qu'on est capable de s'entendre avec les communautés autochtones. La signature en 2002 de la paix des braves avec les cris de l'abbé James, ça s'insère dans cette volonté de promouvoir un Québec qui va vers le développement durable. Vous pouvez contester cette vision, mais ça n'empêche que c'est la vision, c'est la manière de voir des différents gouvernements et des différents responsables politiques aussi par rapport à Hydro-Québec. Donc, on utilise Hydro-Québec et les développements énergétiques pour montrer qu'on respecte les communautés autochtones dans une perspective de développement durable. Donc, on fait des ententes, des partenariats d'égal à égal. Ce sont les termes de la paix des braves entre deux communautés pour le développement régional d'un territoire, ici la baie James. Remarquez que ça fonctionne uniquement pour les CRI jusqu'à maintenant. Les différents gouvernements qui se sont succédés, enfin, il y en a eu deux, là, Landry et ensuite Charest, ont bien de la difficulté de faire la même chose avec les communautés autochtones sur la côte nord, notamment avec les, le projet La Romaine, par exemple. C'est pas le même degré d'entente, on s'entend, avec les communautés isolées et non plus une entente globale où on dit on vous respecte, vous êtes un partenaire d'égal à égal, on va développer ensemble. C'est pas tout à fait la même chose. Je terminerai par ceci avant de vous faire entendre un discours qui va conclure le tout. Quels sont les liens mis de l'avant pour souder la communauté québécoise, pour regrouper les citoyens québécois ensemble? Des liens, ce ne sont plus des liens ici communautaires comme ils étaient sous Duplessis, avec les valeurs de catholicisme, de la divine providence. Ce ne sont plus des liens, et là j'ai perdu mon idée, mais des liens centrés uniquement sur la promotion du fait français et sur le progrès social en vue de donner des emplois à cette jeunesse puis tout ça, mais cette fois-ci, dès les années 80, on se penche beaucoup plus, en utilisant Hydro-Québec, sur la mémoire, sur cette idée de développer une mémoire collective pour nous rattacher à cette révolution tranquille qui s'éloigne de plus en plus. Dès le début des années 80, on le voit. Un Lévesque, par exemple, dans ses discours en lien avec Hydro-Québec, on le sent qu'on s'éloigne de la révolution tranquille et c'est de plus en plus vrai à mesure qu'on s'approche d'aujourd'hui. Et donc, quelle est la façon pour garder ce lien mémoriel-là pour souder ensemble dans un projet collectif, si on veut, c'est de rappeler des éléments mémoriels qu'on sait qui vont, ça va faire consensus ou que les gens, ça va donner une signification aux gens. On rappelle constamment dans les années 80, 90, encore aujourd'hui, on rappelle la nationalisation de l'électricité de 1962-1963. On rappelle les différents éléments symboliques qui étaient rattachés à cette nationalisation, comme, entre autres, l'émancipation économique. On rappelle souvent un projet, celui qu'on pense que fait le plus consensus dans l'histoire d'Hydro-Québec, on rappelle sans cesse le projet Manicouagan-Outarde, qui devient le symbole des années 60. Et entre autres, Manic 5, en fait, c'est Manic 5 souvent qu'on revient sur l'image de Manic 5 pour garder un lien avec le présent. Naturellement, on réutilise toujours cette image-là pour montrer, regardez, on est en continuité. Il y a une continuité mémorielle qui nous lie avec les années 60. Et enfin, on rappelle sans cesse les images des grands bâtisseurs, une expression reprise dernièrement par Charest. On rappelle l'image de ces premiers ministres qui ont été associés à l'électricité. Et on essaie de rappeler, au goût du jour, naturellement, la signification que ces premiers ministres-là apportaient à l'énergie électrique et à Hydro-Québec. Ce sont toujours les mêmes. Très peu Godbout, quoique j'ai un beau discours de René Lévesque qui revient sur le rôle de Godbout, mais c'est surtout Le Sage, un peu Lévesque, quoique le Parti libéral n'aime pas ça beaucoup parler de Lévesque, Bourassa, surtout. Ces trois figures-là reviennent constamment Et ce sont des figures, ils deviennent des figures identitaires pour le Québec, pour rattacher le Québec d'aujourd'hui au Québec des années 60. Et je terminerai par un discours de 2008. C'est un discours raccourci, condensé, où il y a une voix de narratrice et il y a des parties de discours de Jean Charest pour l'annonce en grande pompe du plan Nord. Et vous allez voir, c'est un discours qui est très riche en symboles, vous allez voir la continuité de cette façon de représenter le Québec-là. Une continuité dans la notion, l'idée d'exportation et d'enrichissement collectif grâce à l'exportation et grâce à une puissance énergétique qui est devenue le Québec en exportant son électricité. Vous allez voir, Charest parle de développement durable. Il parle de cette nécessité d'établir des liens d'égal à égal avec les Autochtones. Donc, c'est un discours riche en signification, parfaitement en continuité avec les années 80 jusqu'à aujourd'hui, mais également, pour certains éléments, avec les années 60 et 70. Alors, je termine par ce discours. Et ensuite, ce sera une période de questions.
De Godbout que créé Hydro-Québec à Jean Lesage, qui est devenu chef du PLQ il y a 50 ans cette année. Lesage qui a fait la révolution tranquille et la nationalisation de l'hydroélectricité.
C'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous.
À Robert Bourassa qui a fait la baie James.
C'est en ayant une société prospère que nous pourrons plus facilement atteindre nos objectifs.
Notre parti a toujours su forger l'avenir. For the last year, we have pursued and articulated our vision of creating a new economic space for Quebec. And now, the time has come for us to go a step further. Depuis plus d'un an, je parcours le Québec, le Canada, l'Europe pour mettre en place le contour de ce nouvel espace. C'est notre territoire. C'est ouvrir le Nord québécois. Et le territoire dont je parle, il est immense. C'est tout ce qui se trouve au nord du 49e parallèle. Le Nunavik et la baie James, la région de Shefferville, la partie nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une grande partie de la Côte-Nord. C'est plus de 70 % du territoire québécois. C'est 1 million de kilomètres carrés. C'est 2 fois la superficie de la France. Et c'est chez nous. C'est au Québec. Non seulement c'est chez nous, c'est en nous.
Le Québec moderne s'est construit dans sa relation avec le Nord. Le territoire mérite maintenant qu'on le développe davantage.
Et plus que jamais, l'économie mondiale rend possible le développement du Nord québécois. Il y a 2 changements fondamentaux qui créent une plus forte demande pour les minéraux. La croissance des pays émergents et la reconstruction des infrastructures publiques. Il faut absolument occuper notre territoire. Il faut développer le nord du Québec.
Son développement aura des retombées dans toutes les régions du Québec, permettant au gouvernement de réinvestir en santé, en éducation, d'élever le niveau de vie des Québécois et de réduire la dette.
Le Nord, dans le respect du développement durable, c'est un potentiel minier, un potentiel énergétique, un potentiel récréotouristique.
L'industrie minière est en plein essor et le Québec est reconnu aujourd'hui comme le meilleur endroit au monde pour l'investissement. Le gouvernement du Québec a pris les bonnes décisions. Le développement de l'industrie minière, c'est le nickel, le zinc, le cuivre, le platine, l'or, l'argent, le fer, le titane et le diamant.
Et le Nord, on le sait, nous, les libéraux du Québec, c'est un potentiel énergétique.
Il faut développer davantage de cette énergie, cette capacité dont le Québec dispose.
C'est d'abord pour nous, les Québécois. Et on a franchi le prochain pas en disant que nous voulons également exporter de l'énergie qui est propre, qui est renouvelable, pour enrichir le Québec. Si on vend de l'énergie propre à nos voisins, ils auront moins besoin de centrales au charbon. Ça veut dire moins de pollution dans notre cour à nous en passant. Et en vendant de l'énergie propre, on s'enrichit et on contribue à une amélioration de la qualité de l'air dans tout le nord-est du continent.
Le Québec va développer, mais il doit aussi sauvegarder, protéger, restaurer. Nous avons comme peuple une responsabilité planétaire. L'ouverture du Nord doit se faire dans le respect des principes du développement durable. De l'énergie propre, stable et abordable, qui contribuera au bien-être de tout le Québec.
Et c'est un meilleur avenir pour les jeunes des Premières Nations et des Inuits, chers amis. Il est urgent pour nous, pour tous les Québécois, d'ouvrir l'avenir pour les jeunes des Premières Nations et des Inuits. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux. On va repousser les limites de notre dernière grande frontière, le nord du Québec. Le potentiel de notre territoire est à ce point grand que chaque génération qui l'habitera pourra y laisser sa marque et le mettre en valeur. Le plan Nord, ça fait partie de notre vision d'ouverture d'un nouvel espace économique, d'un nouvel espace pour la nation québécoise. Mon rêve, moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que ceux et celles qui cherchent comment construire l'avenir puissent se tourner vers le Québec et dire « Faisons comme le Québec. Ouvrons-nous comme le Québec a fait. Créons un nouvel espace comme les Québécois ont su le faire pour l'avenir de leur nation. » C'est le rêve que nous allons défendre. Voilà pour nous ce plan pour l'avenir du Québec.
Êtes-vous fier d'être Québécois? Je terminerai par ceci. Pour un historien comme moi qui a travaillé pour ses recherches de doctorat entre 1944, pour la période 1944 à 2005, j'ai arrêté en 2005, ce genre de discours-là, j'en bavais. Tout, pour moi, s'imbrique et c'est une continuité. Des significations qui s'accumulent au gré des différentes époques. J'en ai mentionné trois. Je les ai présentées d'une façon très sommaire. Les trois périodes aujourd'hui. Les significations données à Hydro-Québec en lien avec l'identité s'accumulent avec les périodes et on arrive à ce genre de discours-là qui s'inscrit en continuité, du moins depuis les années 60 et 70. En fait, et je termine par ceci, j'ai remarqué, parce que ça, c'est une vidéo, moi, je l'avais pas vu en direct, là, le lancement du Plan Nord en 2008 ou en 2009. Puis, je me suis aperçu que Jean Charest, il y avait des écrans en arrière de lui où on présentait des images du Nord, puis tout ça. La façon que c'est comme trois écrans, un à côté de l'autre, là. C'est la même chose, la même disposition, le même principe que Robert Bourassa avait pris en 71 dans son fameux discours au Petit Colisée de Québec, là où il annonce en grande pompe devant ses militants le lancement du projet de la baie James. Donc pour moi, ça boucle la boucle, ce discours-là, et ça montre à quel point il y a une continuité dans cette façon de représenter le Québec, de se l'imaginer, que ce soit pour aujourd'hui ou pour le futur. Merci. Période de questions. Je pense qu'on a encore 20 minutes selon ce que Marie a dit. Donc, écoute, j'ai envie de prendre des gens qui n'ont pas encore parlé, puis... mais non, gardez la main levée, là, mais comme je vois que... Émilie, je crois que tu n'as pas encore parlé, c'est ça? Vas-y.